M. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM presque traditionnel, dirait-on. De là à parler de marronnier, on n'est pas loin. Sauf que pour nous, c'est pour la bonne cause, celle de la science. Chaque automne, la science a sa fête. Sur Radio Évasion, radio d'éducation populaire, ça nous paraît très important d'en parler. Peut-être encore plus en cette période qui voit les scientifiques malmenés, la science mal comprise. Car oui, la science, ce n'est pas la vérité toute figée et encore moins sacrée. La science bouge, la science se tortille et parfois la science est en fête. Chez nous, c'est grâce à l'espace des sciences des RIA et l'association Cap des Étoiles qui organise en octobre des expositions, des séances de planétarium, des animations dans la presqu'île de Crozon et l'Aulne-Maritime. La chef d'orchestre de cet événement est avec nous. Bonjour Geneviève Terrière.
Bonjour et merci de votre invitation.
Alors vous êtes en ligne, donc on va tendre l'oreille, mais bon, tout va bien se passer. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler le but de ce rendez-vous qui, je crois, n'a pas connu d'interruption malgré la crise sanitaire ?
Eh bien, le titre de la fête de la science cette année, c'est « L'émotion de la découverte ». Ça veut tout dire. Ça veut dire que les chercheurs qui ont toujours beaucoup d'émotions quand ils ont découvert quelque chose, veulent la transmettre. Et cette année, un autre événement, c'est le 30e anniversaire de la fête de la science.
Ah oui, déjà, quand même.
Oui.
Et c'est, il y a un but quand même, à part, enfin, comme ce que je disais en introduction, mais il y a toujours un but dans ces fêtes de la science.
Un but, c'est toujours de mettre à la portée de tout le monde les grandes découvertes scientifiques et les rendre compréhensibles. Et ce sont les chercheurs qui sont les meilleurs vulgarisateurs. Nous, dans la presqu'île de Crozon, nous essayons d'intéresser à la science et aux découvertes les plus récentes les jeunes et tout le public. Le but de la fête de la science est également pratique. C'est d'inciter les jeunes vers des métiers d'avenir qui sont les métiers de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs. À ce propos, je vais vous dire que le CNES fait une opération extraordinaire avec Thomas Pesquet cette année parce que le CNES a sélectionné 4500 classes, dont 4 très proches de chez vous, donc je vais vous donner le nom. L'école de Saint-Fiacre de Crozon, l'école de Saint-Ségal, l'école de Port-Launay et l'école de Castres. Ils ont été sélectionnés pour recevoir du CNES ce qu'on appelle le blob. Le blob, c'est une espèce qui n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, qui n'est pas une bactérie, mais c'est un animal quand même, enfin, c'est une espèce vivante qui a simplement une cellule, mais capable de se reproduire avec très peu de choses. Et ces classes vont être, pendant tout le mois d'octobre, en relation avec Thomas Pesquet, qui, lui, va étudier cette espèce vivante en apesanteur, et les classes vont l'observer sur Terre, donc avec l'apesanteur, et le faire pousser. Donc le CNES se donne énormément de mal avec Thomas Pesquet. Il va également faire la grande dictée, qui est quelque chose connu sur France Culture, et je crois qu'il va lire un texte de Marguerite Duras, la grande dictée, et les élèves pourront le suivre. Également, Thomas Pesquet est en relation continuelle, quasi continuelle avec des collégiens, et ça, on peut écouter leur dialogue également. Et c'est ce que nous avons fait dans la presqu'île de Crozon avec une école de Crozon.
Oui, la science,
voilà, l'école
de
Jean-Jaurès.
Donc
déjà, vous voyez l'importance qu'on accorde actuellement à la formation des jeunes vers les métiers d'ingénieurs et chercheurs, parce qu'on veut absolument que la France garde son niveau très très important au niveau mondial, en particulier dans le domaine spatial et dans le domaine de la recherche en général.
Oui,
voilà déjà ce que je voulais vous dire sur cet événement dû au CNES et à Thomas Pesquet.
Alors le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, je précise. Et donc oui, en effet, la science a besoin de personnages positifs comme c'est vrai que Thomas Pesquet là-dessus, c'est vraiment le personnage, c'est un héros quasiment, donc ça fonctionne bien. Mais justement, sur le domaine spatial, vous proposez toujours, je suppose, des séances de planétarium. Qu'est-ce qu'il y aura au programme de la fête de la science ?
Alors, la fête de la science, cette année, c'est bien sûr notre planétarium itinérant, gonflable, qui est très attractif. et nous allons le mettre dans toutes les communes de la Presqu'île. Toutes les communes de la Presqu'île, en particulier, bien sûr, dans l'école de Saint-Fiacre, autour du fameux blob, bien sûr. Bon, nous allons le mettre avec des expositions dans des endroits particuliers, les week-ends, en faisant des villages des sciences, à Camaret, à Crozon, à Lanvéoc et à Rosnoen.
Bon. Ce qu'il faut préciser, c'est que le planétarium, c'est non seulement on peut voir effectivement le ciel, mais on peut aussi y voir des films maintenant, c'est ça ?
Non. Ce sont des films spécifiques pour des planétariums. Donc, mais ce qui est particulier avec nous, c'est quand on rentre dans ce planétarium, il n'y a pas un programme fixe de projection, comme dans les grands planétariums fixes, comme à Paris ou à Rennes. Ou à Plumeur-Boudou, nous répondons aux questions des jeunes. Pascal Perdriau, qui est l'opérateur, l'animateur et le responsable du planétarium, est capable d'inciter à ce qu'ils posent des questions et de leur répondre par des projections adéquates. C'est ça l'originalité d'un planétarium.
Des questions
sur le
ciel.
Et puis quand ils sortent du planétarium et qu'on a affaire à des collégiens, à ce moment-là, je les incite aussi, particulièrement les filles, à se diriger vers des métiers scientifiques. Voilà. Voilà notre planétarium.
Vous proposez d'ailleurs aussi, je crois, des observations. Enfin, Pascal Perdriau de l'association Cap des Étoiles propose des observations du ciel.
Oui, on va faire une observation astronomique. Il faut que le jour soit favorable, bien sûr, pour que le ciel soit clair et que les astres soient adéquats. Nous allons le faire, comme l'année dernière, sur la plage de Kerseguénou, sur la route de Crozon à Camaret. Donc nous allons faire une observation astronomique.
Et il y a du matériel ?
Pardon ?
Il y a du matériel, enfin il y a de quoi observer, bien sûr ?
Oui, bien sûr, il a ce télescope et tout public, bien sûr. Alors évidemment, si le temps est favorable. Donc, et ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est bien sûr, comme tous les ans, de nouvelles expositions. Il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'histoire du vivant.
Alors justement, est-ce que vous pourriez déjà, c'est un vrai défi, hein, je vais vous poser une question, c'est un vrai défi, mais comment est-ce qu'on définit scientifiquement le vivant ?
Le vivant, c'est une molécule organique composée essentiellement carbone-oxygène, capable de se reproduire toute seule dans un milieu où il y a de l'eau, de l'oxygène et de l'énergie. L'énergie, ça veut dire soit l'énergie du soleil, soit, par exemple, de l'énergie dans une source hydrothermale provoquant du volcanisme. C'est ça la définition du vivant. Alors, la question se pose, entre autres, de savoir si le virus est vivant. Étant donné que un virus n'est pas capable de se développer tout seul dans les conditions que je viens de vous indiquer. Alors là, il y a polémique, c'est une question de vocabulaire, quasiment. Alors, cette exposition que l'on peut trouver sur le site du CNRS, qui s'appelle « La saga du vivant, l'origine de la vie », est, à mon avis, exceptionnelle, parce qu'elle relate l'histoire du vivant, d'abord, les croyances anciennes, les croyances de l'Antiquité, qui pensait que le vivant était arrivé d'une manière magique envoyé par Dieu sur Terre. Bon. Puis, ça a duré pendant plusieurs siècles. Puis, on a commencé à échafauder des théories, plutôt des hypothèses scientifiques. Il a fallu attendre pratiquement le 19e siècle. Bon. Et puis, au 20e siècle, la très grande découverte, la découverte de l'ADN, évidemment, par Crick Watson, et Rosalind Franklin, j'aime beaucoup parler de Rosalind Franklin parce que c'est elle qui avait fait les travaux de cristallographie par rayons X qui ont permis la découverte de l'ADN. Donc ça a eu un rôle majeur pour comprendre le vivant, sa reproduction et l'évolution. Bon, actuellement, où on en est ? Eh bien, je dirais que c'est l'affaire de ce siècle, de chercher l'origine du vivant. Deux hypothèses. La première molécule vivante arrivée sur Terre est arrivée par un astéroïde, qui voudrait dire qu'il y a des molécules vivantes ailleurs que sur la Terre. Bon, ou bien la première molécule qui a acquis la capacité de se reproduire, ce phénomène s'est produit sur Terre et peut-être au fond des océans, dans les sources hydrothermales. Voilà les deux hypothèses. On a cherché à reproduire en laboratoire du vivant, c'est-à-dire on a mis exactement les conditions qu'on pensait être nécessaires. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Donc la première molécule devenue vivante, c'est vraiment un mystère. On a également cherché s'il y en avait dans un astéroïde, d'où la grande technologie employée pour envoyer sur l'astéroïde Tchoury, ou on peut dire comète Tchoury, un robot qui a été envoyé par une sonde, la fameuse sonde Rosetta, et qui a été capable, ce voyage a duré une dizaine d'années, et on a pu analyser sur place, on a trouvé effectivement des molécules organiques, mais qui ne correspondent pas du tout à la vie sur Terre. Il n'y a pas les mêmes types d'isotopes des atomes de carbone, d'oxygène et d'azote. Donc, c'était un résultat, mais un résultat bon négatif sur cette. Ça veut dire que dans ce type d'astéroïde, il n'y a pas de molécules vivantes qui auraient pu être apportées sur Terre. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, ce qui est passionnant, c'est que le début de la recherche fondamentale exceptionnelle, c'est le XXe siècle, avec la physique, bien sûr, au début du XXe siècle, dans la première partie, avec Einstein, les lois de la physique. Aussi important parce que ce sont ces lois qui ont permis de toutes les technologies spatiales et de partir dans l'espace, et ça continue et ça continuera toujours, parce que actuellement, les technologies spatiales, elles servent bien sûr concrètement sur Terre pour tout ce que tout le monde sait, toutes les applications, mais pour aller beaucoup plus loin chercher la vie. C'est vraiment l'affaire du siècle. Et je suis assez claire,
oui, bien
pour
sûr.
Vous dire que j'ai l'intention de passionner le public avec cette exposition.
On est passionné. Mais alors vous étiez justement physicienne au CNRS, vous étiez cristallographe. Vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les cristallographes ont contribué à cette quête du vivant ?
Eh bien, la cristallographie, c'est comprendre, voir, comment les atomes sont organisés et accrochés entre eux dans les trois dimensions, dans l'espace. Vous voyez, c'est la différence entre un atome, plutôt une molécule de graphite, le crayon, et puis un diamant. Les deux sont composés d'atomes de carbone, mais l'un, le graphite, les atomes de carbone sont positionnés au sommet d'hexagone, et tandis que le diamant, les atomes sont positionnés au sommet de tétraèdre. Et les propriétés sont totalement différentes, puisque le diamant est extrêmement dur, parce qu'il est très difficile de couper ces liaisons entre les carbones qui sont sur des tétraèdres, tandis que le graphite, ce sont des couches hexagonales superposées, et qu'il est facile de couper avec, puisque le crayon, en frottant sur le papier, eh bien, on y laisse des couches de carbone hexagonal. Donc, Rosalind Franklin, qui était anglaise et qui est venue se former à la cristallographie dans le laboratoire où j'ai commencé, d'ailleurs, à Paris, elle a appris comment on pouvait déterminer la forme cristallographique de la matière à l'aide des rayons X, et c'est elle qui, la première, a imaginé qu'il y avait au sein d'une cellule vivante une molécule avec une structure cristallographique particulière qui permettait la reproduction à l'équivalent et l'évolution. Mais alors, elle a fait les travaux expérimentaux de diffraction par rayons X, mais elle n'a pas eu la capacité, elle n'a pas vu, parce que c'était extrêmement compliqué, que ça correspondait à une double hélice. Donc, elle est repartie en Angleterre et c'est Crick et Watson qui, eux, chimistes et biologistes, ont imaginé, et pourquoi est-ce que ça ne serait pas une double hélice? C'était la première fois qu'on imaginait ce schéma cristallographique de double hélice. Et ils avaient raison. Et grâce à cette double hélice, on sait maintenant comment la vie se reproduit et comment la vie évolue.
Mais donc, voilà. il a fallu aussi de la physique.
Et je voulais lui rendre hommage. Crick et Watson ont eu le prix Nobel très vite, moins de 5 ans après cette découverte. Et Rosalind Franklin était morte avant d'un cancer parce que ceux qui ont travaillé sur les diffractions des rayons X ne se protégeaient pas à l'époque et pratiquement tous sont morts du cancer.
Mais c'est là aussi qu'on voit que la science, ça se fait pas tout seul dans son coin. Enfin, déjà, c'est interdisciplinaire et puis c'est une aventure collective.
La science ne se fait jamais seule. Peut-être les mathématiciens. Ils partent des travaux des autres, ils se confrontent aux autres. Mais ailleurs, non. C'est toujours fait. Ça se fait toujours en laboratoire et à plusieurs. Et je dis aux jeunes que je rencontre quelquefois, comme je l'ai fait, je voudrais vous parler pour finir de l'expérience qu'on a réalisée avec des jeunes du collège de Daoulas. Eh bien, j'explique aux jeunes que la science, ça se fait à 17 heures autour de la cafétéria sur les canapés dans les laboratoires. C'est là où on discute et c'est là où, en discutant avec les autres, que les idées émergent. Voilà.
Et donc, il y a d'autres expositions que vous proposez à l'occasion du Village des Sciences et de la Fête de la Science en presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime. Il y a notamment alors une exposition qui est liée à celle sur le vivant, en tout cas, c'est Tous parents, tous différents. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui. Alors là, je vais la mettre à côté, dans la même salle que l'exposition du vivant. Donc je vais mettre l'exposition sur l'origine du vivant. Je vais mettre l'exposition qui relate l'aventure Rosetta, la recherche d'une molécule vivante sur la comète Curie. Et je vais remettre, bien sûr, la magnifique exposition Tous parents, tous différents, qui avait été présenté au Musée de l'Homme à Paris dans les années 1990 et quelques, et qui explique justement l'évolution du vivant à partir, si on peut dire, du premier homme, qui n'est pas une sélection parce que tout d'un coup on vit dans une région très ensoleillée et donc on va acquérir la peau noire. Il ne s'agit pas de ça. L'évolution, ce sont, au moment de la reproduction, ce sont des petits défauts qui se produisent quand la double hélice se coupe en deux et que l'hélice, un bout masculin se rejoint un bout féminin et il y a des petites erreurs. Et les erreurs qui sont favorables persistent. Et les erreurs défavorables, bien sûr, ne donnent pas lieu à des personnes vivantes, vivables. Voilà. Donc, cette exposition, c'est essentiel pour comprendre l'évolution. Ce sont des erreurs favorables ou défavorables.
Et il y a aussi une exposition à laquelle, je crois, vous tenez beaucoup, qui s'appelle « Rumeurs et fake news ».
Ah, ça, oui, j'en mets beaucoup. J'en mets beaucoup. Effectivement, parce que je pense que il faut faire comprendre que il en court partout, que ça va très vite. Comme je dis, les rumeurs dans les siècles précédents, quand il n'y avait pas de téléphone, quand il n'y avait pas les communications qu'on a actuellement, ça restait au sein du village. C'est classique, les blanchisseuses se racontaient des ragots. Et en les inventant, elle racontait des choses fausses. C'est classique, c'est un peu le jeu du téléphone. Et puis les hommes qui allaient au bistrot racontaient des choses, également, ça terminait par des choses fausses. Mais ça restait au sein du village. Tandis que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'information, ça part comme une flambée. Bon. Et pour montrer à quel point, même quand on est parfaitement normal, on peut être crédule et se faire avoir. J'ai fait un panneau sur la rumeur d'Orléans. La rumeur d'Orléans, je l'ai vécue moi-même parce que mon laboratoire était à Orléans à cette époque-là, c'est en 1969. En 1969, en 2 mois. La rumeur a commencé par une femme qui est importunée dans un magasin de vêtements à Orléans. Et ça se termine par, au bout de 2 mois, malgré les efforts de la préfecture, de la palais de justice pour démentir tout ça, les femmes, des femmes et des jeunes filles, droguées dans les magasins de chaussures, par des piqûres dans les talons, transportées par des souterrains, c'est vrai qu'à Orléans, il y a encore des souterrains, mais ils sont bouchés, jusqu'à la Loire, au mois de juin 1969, où les attendait un sous-marin qui les allait les transporter jusqu'au Maghreb pour la traite des Blanches. Ça est arrivé à ce stade-là. Et j'ai moi-même assisté à une réunion avec le représentant du préfet et de palais de justice, disant « mais on n'a eu aucune plainte, il n'y a rien, on vous assure, il n'y a rien ». Et je me souviens une femme avoir levé le doigt et avoir dit « ce qui est classique ». Ma cousine m'a dit que là où elle travaille, son collègue a su par sa tante qui est ci, que ça et que c'était vrai. Voilà comment se forme une rumeur. Et donc je le mets parce que c'est tellement extrême à Orléans ce qui s'est passé, c'est que ça peut faire rire et faire comprendre qu'il faut quand même être vigilant. Et bien sûr, je remets l'exposition extraite du rapport de la Fondation Jean Jaurès sur le conspirationnisme, évidemment.
Et là, on est dans une période où on a l'impression que les gens commencent à se méfier à nouveau des scientifiques, de la science. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Bien que c'est, la science est à la portée de tout le monde, que c'est ce qu'il y a de plus passionnant, de comprendre qui on est, ce qu'on a été, ce qu'on va devenir, notre position dans l'univers. Imaginez ceux qui pensent, les créationnismes, que la Terre a été créée un jour donné comme ça et que l'univers ça n'a pas bougé. Imaginez que les derniers prix Nobel de physique depuis moins de 10 ans sont ceux qui ont réussi à découvrir que toute la matière de l'univers actuel était concentrée dans un volume inférieur à un dé à coudre. À une époque, on appelait ça le Big Bang, parce qu'il y a eu une énorme explosion et que maintenant, on continue à être dans cette explosion. Si les chercheurs ont découvert ça, c'est qu'on a été technologiquement capable de faire des télescopes ultra précis, capables de mesurer, de détecter, de mesurer les ondes issus de ce Big Bang et qui nous arrive encore. Et le plus extraordinaire en cours, encore, plus récemment, un prix Nobel à quelqu'un avec les mêmes techniques de télescope spatial pour éviter, bien sûr, l'atmosphère terrestre qui troublerait les ondes qu'on veut mesurer avec précision, a détecté des ondes issues d'un univers avant le Big Bang. Ça veut dire que la notion d'éternité dans le temps et dans l'espace devient plus qu'une hypothèse.
Alors, c'est vertigineux.
Voilà. Alors moi, je pense, nous les scientifiques, nous avons la chance de vivre en permanence avec ça en tête. Mais je pense que ça peut faire rêver beaucoup de monde.
C'est ça, ça fait rêver la science. C'est un peu ce que vous voulez montrer en fait avec cette fête de la science, c'est ça quoi. C'est...
Parfaitement. Le double but est là. Il est pratique pour que notre pays reste dans les plus grands pays au monde au niveau de la recherche. Il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que les prix Nobel proviennent tous d'Europe et d'Amérique du Nord. Je ne veux pas en dire plus. Vous m'avez compris.
Oui, bien sûr. Et pour terminer...
Et donc, pour tenir ce rang, car malheureusement, l'écart devient énorme et augmente entre les autres pays et ceux que je vous ai cités. Et ça permet également de mieux vivre. Imaginez qu'en France, en 1960, la moyenne de la vie était 60 ans. Actuellement, en France, la moyenne de la vie est de plus de 83 ans. On a gagné plus de 20 ans en 40 ans. Donc la science est à la fois merveilleuse et à la fois pratique. Ça nous permet de vivre mieux. Démonstration extraordinaire. Un vaccin produit en 2 mois par un petit laboratoire de recherche créé par une immigrée hongroise à Philadelphie aux États-Unis qui a travaillé pendant 40 ans sur le rôle de l'ARN sur l'immunologie. En 2 mois, ils ont sorti un vaccin. Et il faut dire que les autres vaccins sont dus à ce qu'il y a des milliers de chercheurs dans le monde qui ont trouvé des vaccins. Et les plus efficaces sont effectivement encore ceux qui sont trouvés en Europe et en Amérique du Nord.
Mais comme vous dites, il fallait du monde, il fallait aussi des années de recherche. On va vous remercier Geneviève Terrière parce qu'on arrive à la fin de cette émission. On va dire à tout le monde de venir à la fête de la science, ça sera au mois d'octobre et on trouvera toutes les informations sur le site internet de l'espace des sciences d'ERIA. À bientôt, merci, au revoir.
Merci à vous.